Un habitant du monde nommé Hamdin Khan.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Encore un bel habitant du monde qui pousse la porte en sol majeur. Un de ces habitants qui a au moins trois passions, les livres, l'image et le son. Un habitant du mood aussi, devenu artiste réalisateur, après avoir marché sur les galets, dans les forêts, près d'un fleuve, puis confié les clés de sa création au mouvement. Mauritanien et sénégalais installé à Bruxelles, Hamdin Khan filme ce qui se trame autour des frontières et dans les zones de non-droit, comme la jungle de Calais. Il filme aussi le mouvement de la vie, au gré de ce monde mouvant, quittant l'impossible pour l'espoir. Ce capteur d'identité itinérante, revenu de la Biennale de Dakar et de Berlin, nous arrive chargé d'images qui ont pour titre « La Maison Bleue »,« The School of Mutton » et « Habiter le monde ».
Une chaîne de montagne, une route, une haie, marche. 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 Un pied, deux pieds. Marche. 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 Sur cette roue, je marche. Je marche. 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 Le long des fleuves, les haies, les chemins, les forêts, les mers, les vannes. Marche. Marche. Une route telle tâche d'enclave, les plages, les savanes. Je marche. Je marche. 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 Marche.
Bonjour Hamdin Khan.
Bonjour Yasmine.
Vous venez d'où ?
Je viens du Sénégal et de la Mauritanie, en fait, particulièrement d'un petit village au bord du fleuve, à la frontière sénégalo-mauritanienne qui s'appelle Dimat. Et de l'autre côté, quand tu traverses, c'est Tekan. Je viens de là.
Vous êtes né en 83, donc en Mauritanie. Est-ce que dans votre exil, car il y a eu l'exil, on va le raconter, est-ce que dans cet exil, il vous est arrivé de marcher longtemps ?
Ouais, il m'est arrivé de marcher longtemps là-bas et ici aussi, dans les villes européennes, à Paris, à Bruxelles. Mais aussi maintenant, je marche toujours.
C'est une profession, être marcheur ?
Il faut être en mouvement, c'est important.
Pourquoi ?
Pour être dans le monde, il faut être aux aguets, il faut être présent au monde parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Et je pense que la meilleure attitude, c'est d'être en mouvement.
Si vous n'aviez pas marché autant, est-ce que vous seriez devenu artiste ?
Je ne crois pas. Je pense que le fait d'être artiste vient aussi dans l'itinérance. On le rencontre, en fait. Je pense que quand je vivais au Sénégal et en Mauritanie, j'avais pas cette vocation, en tout cas comme je l'ai découvert pendant l'exil, en fait.
Est-ce que cette installation, votre installation vidéo qui s'intitule « Habiter le monde » et qui nous accompagne dans ce commencement en sol majeur, est-ce qu'elle vous raconte un peu ?
Elle me raconte, mais elle raconte aussi toutes les personnes qui sont parties. En fait, l'idée de base, c'était de réfléchir à un concept où on est assez proche de celui qui marche, mais qui marche tout seul. Par exemple, celui qui marche dans le désert, qui traverse des zones, mais qui est tout seul. Il est avec son ombre lui-même et il se parle pour se donner du courage et pour se sauver, quoi.
D'où ce point de vue de la caméra qui filme les pieds qui marchent sur les galets, près d'un fleuve.
Oui, c'est tous ces endroits qu'on traverse. Et puis, c'est aussi l'idée d'être quand même ancré, d'habiter vraiment le monde.
On va marcher à vos côtés, Hamdin Khan, et cheminer d'abord en musique avec Ami Koita,
ah,
que vous
magnifique.
Souhaitiez entendre avec Mamaya. Pourquoi ça ?
Ben, Ami Koita, c'est d'abord une des femmes les plus puissantes, une des plus grandes artistes africaines, maliennes. Et c'est surtout une voix qui m'accompagne depuis toujours, donc depuis que je suis enfant, mais aussi dans l'exil, on a besoin aussi de réconfort et Ami Koita, la voix d'Ami Koita, c'est ça.
Chouïa de musique mandingue pour En Sol Majeur et sur RFI. Le Mali est aux portes d'En Sol Majeur avec Ami Koita et pour les beaux yeux d'un réalisateur nommé Hamdine Kan.
Que s'est-il passé le 15 octobre 1987 où un commando dirigé par un certain Yacine Kafando a décidé de mettre fin à un rêve?
R comme Radio, mon amour.
Sankara Lofti, au Ari et Holor Lamhe, et le 8 février, et Hitan Ujindra Teme de Genai, et Chapan de Geta Tegu. Quand il y a une Adani Blaise Compaore, l'homme Tadembo, et de Golgudal Konon Kove, Inirangal. Et Botuma Tengadano, quand Botuma Sankara, au Holiri Kadine Wute, au Gourni, de la Colombe.
Et cette voix, et que raconte-t-elle en Poulard, même si on a une vague idée?
Alors là, c'est une des plus grandes voix de la radio-télévision sénégalaise et africaine. Il s'appelle Tidjane Anne. Et c'est une voix vraiment très importante qui s'inscrit dans quelque chose, je pense, de beaucoup plus global en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Mauritanie en particulier. Parce que Tidjane Anne, c'est l'un des plus grands défenseurs de la langue poulard, mais aussi des langues traditionnelles africaines. Et moi, j'ai grandi avec cette voix, donc, notamment avec cette émission qui s'appelait Andoussa Andi Andine.
Et là, qui raconte un moment historique
important. Il raconte un moment très important. Il raconte le coup d'État de Blaise Compaoré, qui a coûté la vie à Thomas Sankara. Et moi, j'étais, à l'époque, j'étais très jeune, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait là. Et ce qui était intéressant aussi avec Tidjane Anne, c'est qu'il nous racontait des histoires. Et avec cette voix complètement incroyable, avec cette musique qui accompagnait cette histoire, ces histoires, et c'était l'école d'histoire.
Oui, c'est la force de la radio hein, aussi,
oui,
il paraît.
Oui, et ça m'a accompagné beaucoup et jusqu'à maintenant, j'écoute beaucoup la radio.
On vous en remercie. Ça veut dire que la conscience politique est rentrée très tôt, dès le berceau, si j'ose dire, dans votre vie. Pourriez-vous nous raconter que faisait votre père et que faisait l'un de vos oncles à vous, Hamdine Khan ?
Bon, je viens d'un village qui s'appelle Dimat, qui a été fondé par quelqu'un d'assez important qui s'appelle Eliman Boubacar Khan, donc qui est mon ancêtre, qui a été résistant pendant la colonisation et qui a aussi été quelqu'un d'important dans l'histoire du Fouta en général et du Sénégal en particulier. Mais autrement, mon père, il était dans l'armée et mon oncle, c'est surtout en fait la génération de mon oncle, donc Seydou Khan, un socio-anthropologue. En fait, c'est toute cette génération d'Africains qui sont partis faire leurs études en Russie et ils sont revenus complètement politisés et c'était les premiers cadres des États africains nouvellement indépendants. Donc Seydou Khan faisait partie de ce groupe d'intellectuels...
qui rêvait de l'émancipation, de l'indépendance
qui rêvait de l'indépendance des pays nouvellement indépendants, mais d'une façon vraiment fondamentale et
il a fondé le FLAM, c'est-à-dire le Front de Libération Mauritanien.
Il était l'un des cofondateurs de FLAM et l'un des qui ont écrit le manifeste des négros mauritaniens opprimés. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont été aussi envoyés à la prison mouroir de Walata. Donc avec Ibrahim Sarr, Diego Tapsir, il y avait Ten Youssouf Gueye. Et Ten Youssouf Gueye est mort à la prison de Walata.
Donc ce
et Diego Tapsir aussi. Moi, j'ai grandi en fait dans ce contexte politique et il y avait une certaine colère qui découlait en fait de cette situation parce que je l'ai vécu aussi. Et voilà, moi je m'inscris un peu dans cette filiation. Quoi.
Sans parler des tensions qui accompagnent aussi la Mauritanie et le Sénégal, il y a une date importante en 89, c'est la crise territoriale qui oppose les deux pays. C'est une crise, je le rappelle, mais c'est pour aller très vite et on ne va pas rentrer dans ce débat, mais crise liée à la sécheresse et à un premier accrochage entre bergers peuls mauritaniens et paysans soninkés sénégalais. Comment vous êtes un petit bonhomme à ce moment-là, mais vu que la conscience politique circule à la maison, comment vous vivez cette crise ?
Ben, en fait, à l'époque, je vis de l'autre côté du fleuve et je vois les réfugiés arriver. Je vois une partie de ma famille mauritanienne arriver, dont un oncle aussi qui est médecin, qui arrive avec sa famille et qui sont complètement dépouillés, complètement anéantis. Et il faut gérer la crise. Il faut construire des tentes. Et puis, il y a aussi la violence qui accompagne les événements, mais du côté sénégalais aussi, parce que les morts aussi ont été attaqués du côté sénégalais, ils ont été rapatriés aussi en Mauritanie. Et c'est vraiment un choc, c'est la première fois que je vis une crise.
Une crise où les frères s'entretuent d'une certaine manière.
Absolument, parce que là, finalement la Mauritanie et le Sénégal, c'est un seul pays. Hein. Moi, je n'ai jamais considéré que j'avais deux pays. Je suis foutanqué et les deux parties du fleuve, la rive gauche et la rive droite, pour moi, c'est mes terrains de jeu, quoi.
En 2009, en tout cas, puisque l'horloge tourne dans votre vie aussi, Hamdine Khan, vous faites votre baluchon, vous quittez le Fouta. Est-ce qu'on peut dire que c'est en partie à cause des livres que naît le désir de partir chez vous ?
Moi, j'ai toujours voulu partir. Hein. J'ai toujours été curieux de ce qui se passait de l'autre côté de la montagne. Partir coûte que coûte pour aussi me sauver, pour aussi peut-être devenir ce que je suis aujourd'hui. Je pense que être à Dimat ou à Tekan ou à Nouakchott ne me permettait pas de faire ce que j'avais envie de faire. Être au monde, hein. C'est pas être artiste. Tu vois, être artiste, ça ne veut rien dire.
Mais être au monde dans le Fouta, c'était pas possible ?
Ça l'était jusqu'à un certain moment et puis ce n'était plus possible. Je tournais en rond parce que bon, le Fouta, c'est pas très grand. Hein.
Seulement, on va dire que partir, c'est perdre aussi.
Ben en fait, c'est ça. C'est quand tu pars, tu perds ta place. Et pour retrouver cette place, tu dois apporter quelque chose. Quand on part, on acquiert quelque chose de plus, mais pas que pour soi, pour l'ensemble de la communauté.
Donc il faut arriver les mains pleines.
Il faut arriver avec quelque chose à offrir. Il faut enlever quelque chose de soi, carrément. Hein.
Le familier.
Physiquement et.
Les références.
Ouais, ce qu'on est fondamentalement, quoi, en tant qu'humanité. Et c'est ça qu'on donne, je pense, quand on part. Et en retour, on reçoit quelque chose.
Qu'est-ce qui vous saisit, vous, Hamdine Khan, quand vous arrivez en Europe?
En fait, le plus difficile, c'est la gestion administrative des êtres humains. Tu arrives dans un bureau administratif pour la première fois, quand tu viens d'Afrique, par exemple. La première chose qu'on fait, c'est on te prend en photo, on prend tes empreintes, on te colle un numéro. C'est violent. Hein? C'est la chose la plus violente que j'ai vécue quand je suis arrivé ici.
Un peu comme un criminel, quoi.
Oui, absolument. Et ça a été un choc, quoi, pour moi. Et c'est quelque chose qui a nourri aussi ce que je fais aujourd'hui. Hein? Ça a été quelque chose de très difficile.
Cette violence administrative, elle se passe en France pour vous, parce qu'il faut dire que vous avez donc obtenu une bourse pour une formation de bibliothécaire. Vous l'étiez à Nouakchott.
Oui.
Donc vous faites des stages à la Bibliothèque nationale de Paris. Et Paris est compliqué parce qu'il y a une administration qui est très compliquée. D'où la tangente direction Bruxelles. Bruxelles, c'est moins compliqué que Paris ?
En fait, Paris, pour moi, c'était même pas le côté administratif, c'était le côté un peu froid. Tu vois, j'arrivais pas à habiter cette ville, tu vois, juste à rencontrer des gens. J'étais un peu esselé. Et comme j'étais dans une situation un peu compliquée où je voulais rester, c'est moi qui voulais rester, hein. Pour moi, ce qui était le plus facile, c'est de partir. Et partir, mais où ? Bruxelles, tout simplement, parce que c'est la ville à côté où on parle le français, en fait. C'est la langue. Je me suis dit, bon, au moins là-bas, ils vont me comprendre. Mais effectivement, Bruxelles, c'est beaucoup plus petit comme capitale. Et c'est une ville aussi d'étrangers. On habite beaucoup plus facilement à Bruxelles qu'à Paris, mais juste en termes d'espace. Hein. Les loyers sont moins chers, c'est des choses très simples. Hein.
Et la bière est meilleure.
La bière est très très bonne.
Donc en marchant peut-être un petit peu plus que la moyenne, Hamdine Khan, vous avez franchi des fleuves et puis des noms sur la carte.
Ok, juste pour le Soudan.
Soudan.
Yeah, where is Libya?
Libya, it's here.
Yeah. Libya.
Uh-huh.
After Libya, Italy.
And then from Italy?
French.
France. Anyone else want to show me the route?
Why are you?
North from maybe in a different colour?
Okay. Yellow. Where's Sudan?
Yeah, different.
Here's Sudan, no?
Sudan, yes.
Yeah. Libya?
Libya.
From Libya. Where's Italy? Here?
Same place.
Like this?
Uh-huh. Okay, I'm falling off the map.
En France.
En France.
Yeah.
Okay.
Nataka kuona vitambulisho yako.
Est-ce que vous pouvez me présenter vos papiers?
Une question posée sans la lampe torche.
Ouais. Donc là, on entend.
Vous ne me répondez pas à la question, c'est magnifique.
C'est quoi la question?
Les papiers.
Oui.
Non, mais c'est une question qui est un peu une boutade, mais parce que vous avez connu et vous avez, j'ai cru comprendre, décidé de connaître le statut de sans-papiers.
Et en fait, c'est ça qui est un peu étonnant, cette idée de papier ou de sans-papier. Moi, j'essaie de sortir un peu de ça, tu vois, mais bon, on a tous besoin de papier pour passer les frontières, pour le quotidien. Mais dans l'idéal, moi, je n'ai jamais eu de papier, en fait. Tu vois, j'ai eu mon premier extrait de naissance, j'avais une dizaine d'années, et ce n'était même pas les bonnes dates. Je ne sais pas quand je suis né.
Les papiers, c'est un truc de blanc.
Non, c'est un truc de... Ouais,
faut le dire.
C'est un truc de blanc, ouais. Donc, ce n'est pas... C'est
mais vous
pas...
avez fait une demande d'asile politique, quand même,
oui, j'ai
en
fait,
Belgique.
Ouais, j'ai fait une demande d'asile en Belgique pour
donc,
pouvoir rester.
En tant que personne potentiellement menacée dans son pays.
Moi, je pense que tous les Mauritaniens, en tout cas les négro-mauritaniens, peuvent demander l'asile un peu partout dans le monde.
Car vous êtes
vu
menacé.
L'histoire. Oui. Finalement, en fait, je ne suis pas menacé physiquement. Je peux vivre à Nouakchott, mais tu vois, les études, par exemple, on est obligé aujourd'hui d'apprendre l'arabe obligatoirement. Et ça, c'est le fond de la problématique politique en Mauritanie. Donc, toutes ces choses-là. Et puis, je pense que, par exemple, bon, si jamais tu veux être artiste aujourd'hui, tu veux faire du cinéma. Bon, il n'y a pas d'école de cinéma en Mauritanie. Il n'y a pas une école de beaux-arts, par exemple.
Et vous, vous voulez être un artiste. Et comme vous avez raison, Amdine Khan. Alors, vous êtes chargé de toute cette histoire que vous venez d'évoquer assez rapidement, cet exil et ce statut de sans visage, on va dire, en arrivant en Europe. Mais comment vous en arrivez à l'image, et une image qui traque la question des frontières, notamment.
C'est des rencontres. En fait, quand j'arrive en Belgique très rapidement, donc je me retrouve dans ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le Namurois. Et là, je rencontre quelqu'un d'assez important dans ma vie, un réalisateur belge qui s'appelle Benoît Mariage. Et en fait, quand j'arrive dans ce centre d'accueil...
Qui a beaucoup travaillé avec Benoît Poulvorde.
Oui, Benoît Poulvorde, Bouly Lanars, François Damiens. C'est un artiste important en Belgique.
Et il vous ouvre les portes.
Il m'ouvre les portes. On se rend compte parce que... déjà, j'ai la chance d'être là et que lui aussi, il est là. Il est en train de faire un film avec les résidents. Et on se rend compte aussi parce qu'il connaît très, très bien la Mauritanie. Parce qu'il a fait avec Pierre-Yves Van der Waard leur premier film en Mauritanie qui s'appelle Nemadi.
Donc il vous prend sous son aile pendant 2 ans environ. Ça va être un peu peut-être comme une sorte d'école pour vous.
C'est une école, ouais. Voilà. C'est une école. On fait un film, il y a un tournage. J'apprends les ficelles, écrire un scénario, tenir une caméra.
Sans parler du squat d'artistes d'art contemporain de Bruxelles qui sera peut-être une sorte d'école sur le tas comme ça. En tout cas, sous vos pas de traqueur d'images, Amdine Khan, un jour il y a la jungle de Calais, où vous retrouvez une vieille connaissance à vous qui fait l'objet d'un podcast produit par les radios de services publics, RTBF, RTS et Radio France, extrait du chemin des dunes.
Allô.
Allô, Alpha.
Ça va?
Marahba.
Alhamdulillah.
Mbada Tamber Dian.
Maulam, alhamdulillah.
Arsel.
Maulam, yutudam.
Eh ouais, ça va à Calais?
Voilà, ça va bien, Alhamdulillah.
Est-ce que tout se passe bien?
Tout va bien, Alhamdulillah.
Maulam, alhamdulillah, barakallah.
Alors, vos retrouvailles vont se solder par un désir de filmer Alpha, qui est dans cette jungle de Calais, donc cet immense camp de migrants, où il construit son incroyable maison qui donne son titre à votre documentaire « La Maison Bleue ».
Hamelin, Zaf, c'est un truc de fou, mais c'est le truc de fou qui peut donner quelque chose. Et t'as dit, ma maison, c'est une œuvre d'art.
Mais oui.
Et ça, il n'y en a pas dans le monde entier. Une personne qui a fait sa culture comme la culture belge, qui l'a représentée dans un pays, ça, je n'ai pas vu ça ici en Europe, qui a fait une case en Europe. Est-ce qu'on va, ami?
Oui.
Le jour où je quitterai ici, les gens viennent. Le problème est que je sais si je quitte, les gens vont oui, casser.
Mais tu peux garder ton. Tu vois, tu gardes les contacts et tout. Hein.
On est un peu dans le noir parce que c'est filmé la nuit, donc dans cet extrait de La Maison Bleue, signé Amdine Khan, notre invité en sol majeur. Qu'est-ce qui se jouait pour vous dans ces retrouvailles avec cet ami d'enfance, Peul, comme vous, que vous retrouvez en pleine jungle de Calais?
Je le retrouve tout à fait par hasard en écoutant à la radio parce que je ne l'avais pas vu depuis 10 ans. Il était parti depuis 10 ans du Fouta en passant par la Syrie, la Turquie et puis la Grèce, les Balkans et puis la Belgique, la France. Et donc quand je l'entends parler, je reconnais la voix en fait et je le cherche sur les réseaux sociaux et je le retrouve. Et je dis, bah, j'arrive, je viens te voir et je viens avec une caméra.
Sans savoir ce que vous voulez faire.
Sans savoir, et c'était le début. J'étais déjà en train de travailler sur un autre film, mais là, je me dis, bon, il y a quelque chose qui se mettait en place d'une façon vraiment très urgente. Et du
Pourquoi
coup,
urgente ?
Parce que justement, je voulais travailler sur la question d'une certaine manière, la question de l'exil, la question des réfugiés, parce que j'en avais marre d'entendre parler des gens qui partent, de ces personnes comme des ombres, comme s'ils n'avaient pas d'histoire. Alpha s'appelle Alpha, il vient de quelque part. Et ce qui m'intéressait, c'est lui, c'est ce qu'il porte. Alpha, quand il vient avec tout ça. C'est pour ça que sa maison est importante. On l'interdit d'habiter, il construit une maison. Il fait son travail d'artiste.
Donc ce n'est plus le visage du migrant, c'est le visage de l'artiste qui apparaît.
Ouais, et de l'humanité, de ce qu'on a de plus commun tous. Et Alpha l'exprime à travers son art. Donc je voulais faire un film sur ça. Et je pense que peut-être que lui-même, il ne le savait pas. Mais pour moi, c'était vraiment incroyable d'avoir ce décor.
Quel décor alors ?
Bah, c'est la maison Peul.
Alors, est-ce qu'on peut dire à quoi ça ressemble une maison Peul ?
Une case Peul, c'est une construction assez ronde. La maison porte un grand chapeau. Mais en fait, c'est surtout que les maisons Peul sont faites pour être déplacées très rapidement. Comme les Peul sont nomades, ils ont besoin de se déplacer avec leur habitat très rapidement. Et d'ailleurs, en fait, les Peuls ne sortent jamais de leur territoire. Ils tournent à l'intérieur de leur territoire selon les besoins des bêtes, en fait, de leur troupeau et selon les saisons. Et donc, ils ont besoin de ces maisons assez faciles à déplacer. Et Alpha, comme il est Peul, il sait comment construire une maison.
Donc, vous filmez cette jungle de Calais depuis la case Peul d'Alpha, ça donne une autre perspective finalement.
Ben, j'habite avec lui. Et ce qui était important aussi, c'est la position de la caméra. Qu'est-ce qu'on voit ? Bon, j'avais de la chance, c'est mon ami, on se connaît. Oui. Et
on le voit en train de faire sa petite vaisselle, on le voit en train de découper le prénom Alpha justement pour le mettre sur une espèce de patchwork où il y a d'autres images comme ça avec le drapeau britannique, avec des slogans liés à la jungle de Calais. On le voit allongé à côté de vous, on le voit dans l'intimité. C'est l'histoire d'un homme qui se raconte.
C'est un homme qui est debout, qui raconte sa vie. Et il me rappelle un peu ces artistes un peu naïfs, tu vois. C'est un peu du Duchamp ou du Buffet, tu vois.
Dadaïste.
C'est vraiment un dadaïste, quoi, avec tous ces collages et cette installation géante qui est la maison.
Alors, vous qui, justement, posez votre caméra régulièrement sur cette question des frontières, avec Habiter le monde, avec la Maison Bleue notamment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la frontière ?
La frontière, c'est une porte. Et une porte, c'est fait pour être passée, quoi. Et la militarisation de la frontière européenne est insupportable. Et je pense que, par exemple, les dirigeants africains, quand ils viennent négocier des choses ici avec les dirigeants du monde, c'est ça qu'ils devraient négocier. C'est la question la plus urgente aujourd'hui.
Alors, on va continuer à marcher aux côtés de votre colère, qui est très perceptible, Hamdine Khan. On va marcher jusqu'à Dakar, c'est l'un de vos QG, où, avec Stéphane Verlet-Bottero, vous avez créé une plateforme collaborative d'art et de recherche. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, vous allez nous éclairer, vous avez des problématiques dans la poche et vous vous servez d'images pour le dire. Avec The School of Mutants, l'écran est divisé en trois images. Il donne à voir trois lieux différents. Dans le premier, on voit à travers une lucarne un bout de ciel avec des ruines grignotées par un arbre doré, peut-être éclairé par la lune. Sur l'écran du milieu, plus large, la silhouette d'un homme traverse une forêt. Sur l'écran de droite, on est plongé dans la pénombre avec des ustensiles peut-être qui pendent. Puis la première image de ruines dorées laisse la place au visage de Chiranta Diop. La troisième a des palmiers pris dans un ciel bleu nuit. L'image de la forêt au milieu persiste. Les images de ces paysages vont évoluer. Seule la bande-son pleine d'oiseaux reste. Jusqu'au changement de lieu, allant vers le béton. Intérieur nuit, une femme, un homme dans des lieux non identifiables, puis une voix.
Nous ne recevons plus de leçons de personne. Nous sommes fatigués des tricheries. Pour nous, toute rupture est définitive.
Que signifie la ruine ?
Ça signifie qu'on vit sur des oublis, sur des cadavres. Pour nous, l'émergence est une pulsion de mort.
Quelle est la volonté de cette installation visuelle magnifique qui a été vue dans bon nombre de biennales et dont le titre accroche l'oreille, hein, en français, l'école du mutant, Sam Duncan.
Alors, l'école des mutants, c'est le collectif qu'on a mis en place avec Stéphane Verlet-Bottero depuis quelques années, qui est basé à Dakar, mais qui voyage un peu. Et ça vient d'un projet beaucoup plus vieux, qui date des années 80. Sur l'île de Gorée, qui est une école alternative créée par Senghor et qui accueillait en fait tous les chercheurs et les artistes, des intellectuels africains. Donc c'était une université panafricaine pour réfléchir sur les mutations, donc sur l'avenir de l'Afrique. Oui. Bon, malheureusement, cette école n'existait plus et nous, on voulait la réactiver. Mais la réactiver comme un collectif d'artistes. Je pense que les artistes sont souvent beaucoup plus efficaces.
Que les universitaires.
Que les États. Donc c'est une université et elle marche par chapitre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on travaille sur des archives, par exemple, où on dit, bon, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'on peut faire sur le travail de Serhanta Diop ? Et on mobilise dans cet espace de production. On produit des choses, on produit des images, on produit des discours, comme le discours que vous venez d'entendre.
Qui est signé qui ?
Qui est signé Ahmed Duncan et Stéphane Verlet-Bottero. Donc c'est une fiction, en fait, qu'on a écrite pour le besoin de cette installation en particulier.
En tout cas, il y a un mot-clé qui apparaît hein, dans cette marche qui vous définit Ahmed Duncan, c'est peut-être le mot « résistance ». Peut-être l'êtes-vous d'ailleurs, alors on va aller voir du côté de l'abécédaire de Gilles Deleuze que vous nous avez soufflé, que vous consultez parfois. Attention, citation à l'horizon.
Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'écrivain qui l'a dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Comment est-ce que des hommes ont pu faire ça ? Des hommes, c'est-à-dire d'autres que moi. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Et deuxièmement, comment est-ce que moi j'ai quand même pactisé ? Je ne suis pas devenu un bourreau, mais j'ai quand même pactisé assez pour survivre. Et puis, une certaine honte précisément d'avoir survécu à la place de certains amis qui, eux, n'ont pas survécu, tout ça. C'est donc un sentiment extrêmement composite, la honte d'être un homme. Moi, je crois qu'à la base de l'art, il y a cette idée que, ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée.
Lire ou relire Gilles Deleuze qui va bien m'aider pour cette question en sol majeur. Est-ce qu'à l'origine de votre geste artistique, je ne sais pas si je dirais la honte, je me demande si ce ne serait pas la colère. Est-ce qu'il y a la honte d'être un homme, Ahmed Duncan ?
Oui, peut-être qu'il y a une certaine honte, mais c'est surtout la colère. Mais c'est surtout aussi l'envie de résister. Tu vois, un artiste, ça résiste.
Et Gilles Deleuze est inspirant ?
Gilles Deleuze est très inspirant parce que c'est ça, c'est... Être artiste, faire de l'art, c'est résister à la connerie, c'est résister à la violence, mais aussi c'est être aux aguets, c'est être là.
Mais concrètement, prêt. Deleuze aimerait savoir, je le sais maintenant, il aimerait savoir aussi ce que vous tentez de libérer à travers votre travail artistique.
En fait, je veux donner de l'air, il faut de l'air frais. Par exemple, tu vois, moi, quand je marche dans la ville de Dakar, ce qui me rend fou, c'est pas que la ville est polluée, que c'est pas que tout est un peu un bordel. Je suis dégoûté par tous ces nouveaux riches. C'est les inégalités. Tous ces gens qui roulent en 4x4, en 8x8, alors que le parc automobile public sénégalais n'a pas changé depuis les années 60. Et quand on est artiste, il faut être aux aguets de ça.
Il y a la marche.
Et ça, c'est Deleuze, complètement.
Et il y a la démarche aussi. Alors, est-ce que passer de Gilles Deleuze à Chiranta Diop, c'est tranquille?
C'est tranquille.
Possible.
Tout à fait naturel.
OK.
Le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine, parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître.
S'il vous plaît, Hamdine Kane, rassurez Chiranta Diop. Il aimerait savoir si on peut vous soupçonner, vous, le descendant de colonisés, de somnambulisme, d'aliénation ou de soumission à la vérité de l'homme blanc, puisque finalement, c'est ce qu'il reproche aux intellectuels africains dans cette conférence.
Chiranta Diop, pour moi, c'est une image, parce qu'on a besoin d'images aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mouvement décolonial, décoloniser les savoirs, décoloniser les arts. Mais Chiranta Diop, c'est lui qui a ouvert la voie. Donc c'est lui qui a posé ça.
Il faut rendre à César.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Et il dit quelque chose de vraiment de très fondamental. Il dit, à science égale, la vérité triomphe. Donc armez-vous de science jusqu'aux dents et puis la vérité fera la différence. Et quand on est artiste, c'est aussi ça. Il faut travailler. Un artiste, c'est pas gratuit, hein. C'est pas un cadeau, quoi.
Vous avez besoin et d'un Chiranta Diop et d'un Gilles Deleuze ?
Absolument. Parce que Gilles Deleuze, c'est un militant. C'est pas un idéologue, c'est un militant. C'est un homme de terrain, comme Félix Guattari. Ils sont allés dans la rue.
Qui est Demba Hamed Gissé ?
Demba Hamed Gissé.
Ah oui, sans l'accent.
Qui est Demba Hamed Gissé? C'est un griot, c'est un troubadour, c'est un poète. C'est quelqu'un, quand il parle, on a l'impression, comme Baba Mal, c'est un peu comme le blues du désert. C'est des grandes balades comme ça, c'est infini. Et c'est des témoins d'un monde disparu.
Ko rewbe awlube ngadi halde ko be mbi Ablaye jaraama ko gonga kalteten ko nyaam golluji bennude sababu hadi nante non ma mojjo hebe walla baddo nyalaani no Abdoulaye wadiri nyalaani ni mi wi o bamti darajaaji kewdi addu dema do e odo emission ada wiltana yimbe e odo jamanu o wiyete tan ko jaraama sade jogninoma caggal jaraama en gaddan kono jogani dem mo tan ko jaraama.
あなたの国を思い出させるものを何か持ってますか？
Est-ce que vous portez un objet qui a un lien avec vos origines?
Je
bien quand un sol majeur vous pose des questions inutiles.
J'ai plein de reliques avec moi, des objets que m'a donné ma mère, par exemple ce bracelet. J'ai mon écharpe d'un homme du désert.
Vert kaki, magnifique.
Ouais, d'un homme d'un sahélien. Non, j'ai plein de petites choses qui m'accompagnent au quotidien, comme ça.
Vous gardez aussi sous l'oreiller, je le crains, des poèmes de Murtado Diop,
ouais. C'est un... Murtado, c'est vraiment les... En fait, il y a trois personnes qui m'ont beaucoup accompagné quand j'étais petit. C'est vraiment Murtado, Ibrahim Assar et Seydou Kane.
Mm-hmm. Et du coup, le cordon... Peul, si j'ose dire, est tellement fort et tellement présent en vous qu'il y a des concepts que vous ne pouvez dire qu'en Poulard. Par exemple, tout ce qui concerne le comportement Peul.
Oui, c'est l'ensemble de ce que ça veut dire, le comportement, l'organisation Peul, le Poulagou. Le Poulagou, c'est vraiment c'est une attitude, quoi. C'est comment être avec les autres, comment on arrive chez quelqu'un.
Et comment on arrive chez quelqu'un ?
On arrive discrètement et dans la culture Peul, quand un étranger arrive, on est obligé de l'accueillir. Parfois même, on lui cède son lit. Et lui, en retour, il doit vous donner quelque chose. Il doit vous raconter tout ce qui s'est passé pendant son voyage, par exemple.
C'est le récit.
C'est vraiment le récit.
Qui est son présent.
C'est le fondement du récit, quoi. C'est comment on nourrit les récits, comment on les améliore et comment on s'ouvre aussi au monde, comment on fait lien avec l'autre.
Alors, ça fait 13 ans maintenant que vous vivez dans la patrie du chanteur Arnaud, qui a tiré sa révérence il y a peu.
Oui.
Donc, vous vivez à Bruxelles. Et tout récemment, je crois savoir que vous avez obtenu votre certificat d'intégration au Dariman.
Absolument.
Aussi appelé chez Martine.
Oui.
Il paraît que quand tu es accepté là-bas, tu es bruxellois.
Ça y est, tu es bruxellard, comme ils disent là-bas. Là, c'est un lieu important. C'est un petit troquet qui est rue de Flandre et les Bruxellois se retrouvent là. On se parle pas forcément. Sacon est là et les gens y passent, les étrangers passent, les habitants de la rue qui sont là, ils ont leur habitude. Et Arnaud avait aussi ses habitudes là et je le croisais souvent.
Mmh. Et là, comment vous savez que vous êtes accepté aujourd'hui?
C'est très discret. C'est quand tu arrives, tu reconnais tout le monde et tu dis bonjour à tout le monde et on te sert ton verre et voilà, on s'offre des verres, on discute. Et puis, c'est aussi des rendez-vous de travail. Mm-hmm. Parce que tu peux croiser un curateur là ou un réalisateur, un producteur.
Amdin Khan.
D'autres artistes. C'est le rendez-vous aussi des artistes. Donc je suis très attaché à ce lieu. Et quand je suis à Bruxelles, l'après-midi à 17h, si vous voulez me trouver, c'est au Dariman.
Écoutez, c'est noté le rendez-vous. Mais si vous êtes accepté, c'est aussi parce que l'exil vous a forcément transformé.
On est transformé par l'exil de toute façon parce que c'est violent. On est obligé de se séparer de certaines choses, je pense, pour accepter aussi ce qui arrive. C'est un monde nouveau. Et je pense aussi que tu es accepté aussi parce que tu participes. Aujourd'hui, je fais partie des artistes aussi belges. Je suis aussi un artiste belge. J'ai quelque chose à dire de la Belgique.
Ça sera pour un autre en sol majeur. Merci et Djalama, Hamdine Khan, d'avoir marché pour cet en sol majeur qui va se refermer avec ce cher Bonga. Tiens, c'est un musicien angolais. Pourquoi lui ?
C'est aussi une voix. C'est une voix très importante, c'est une voix forte. Et puis ça me fait penser à l'Angola, mais bien sûr au Cap-Vert, à la Guinée-Bissau, à Amircal Cabral.
Encore un héros.
Un résistant. Que des guerriers. Mmh, 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 mmh.
aluke nungolo fwa gamu bingi kiaze mwene wando kala benyaba eme ngondo ya mye na mona mwenye iso ya weza mona mona mwenye aluka mumba mona mona mwenye iso ya weza mona mona mwenye Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo yamye Mona mona mwenye Mwenye weza Mona mona mwenye Kalunga mwa Mona mona mwenye Mwenye weza Mona mona mwenye Ngangumba aluke nungolo fwa Ngamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Weya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi pana mona Kamu valele Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Ngangumba Mona mona mwenye Zoya weza Mona mona mwenye Zoya weza Mona mona mwenye Ngangumba Zambi wangi pana mona Ngamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye mwenye Mona mona mwenye Zoya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Mona mona mwenye Zoya weza Mona mona mwenye Kalunga mba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Mona mona mwenye Soya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu valele Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya mye
De la musique hors les murs, tous les murs, pour En Sol Majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux ou encore derrière votre poste. Ça se passe chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Thibaut Baduel, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On remet le couvert la semaine prochaine avec Akonio Dolo. À la semaine prochaine.
Mona, mona, mwenye, kalunga ngumba.